Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre cette émission Bulle Santé dans laquelle nous allons tenter de comprendre comment une activité artistique peut aider à mieux guérir. Et pour en savoir plus sur cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Chardon, psychologue et art-thérapeute. Bonjour Fabrice Chardon.
Bonjour.
Grâce à notre studio mobile, nous sommes en plein cœur de l'AFRATAPEM. L'AFRATAPEM, c'est l'école d'art-thérapie de Tours, où vous êtes directeur d'enseignement et de recherche. Pour commencer, pouvez-vous nous donner une définition générale de l'art-thérapie ?
Donc l'art-thérapie, c'est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée thérapeutique et humanitaire. Ça veut dire, et c'est important, et c'est l'école d'art-thérapie de Tours qui a donné cette première définition et qui l'a défendue, que le principe de l'art-thérapie, ça ne sera pas forcément de guérir, mais de donner envie de guérir. Ça, c'est un premier point important.
Quel est votre parcours personnel, votre formation, votre pratique ?
Alors, mon parcours personnel est un petit peu atypique, puisqu'il a commencé par des études de médecine, à la base, parallèlement des études musicales, et à un moment, la rencontre, encore une fois, avec une personne, un patient, qui, à l'époque où j'étais en études de cancérologie, est passé me voir et m'a dit, alors que j'étais en train tout simplement de répéter un morceau pour une médaille au conservatoire de Grenoble, m'a dit « c'est peut-être comme ça qu'il faut soigner vos patients dans ce service ». Et donc tout est parti de là, nous étions à l'époque en 2000, de là le parcours s'est mis en place avec donc un diplôme universitaire d'art-thérapie à la fac de médecine de Tours, donc qui était le premier diplôme universitaire d'art-thérapie porté par une faculté de médecine en lien donc justement avec l'AFRATAPEM. Le partenariat s'est mis en place dans les années 80, début des années 80. Et donc voilà, puis la psychologie en ce qui me concerne, puis une thèse en psychologie, puis effectivement l'arrivée à l'AFRATAPEM en tant que responsable pédagogique.
Être art-thérapeute, est-ce être d'abord artiste ou d'abord soignant ?
Un peu les deux. Dire être d'abord, mettre une priorité sur l'un ou l'autre, ça risque effectivement d'être un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, pour l'AFRATAPEM, et ça c'est important pour l'école de Tours, on est d'abord une personne qui possède des capacités techniques artistiques avant de pouvoir rentrer en formation. C'est-à-dire que la sélection se fera essentiellement sur les capacités techniques et peu importe la dominante artistique, que ce soit le théâtre, la calligraphie, les arts plastiques, la musique, le dessin, la peinture, la photo, etc. Peu importe cette dominante artistique, on sera d'abord une personne qui maîtrise la technique avant de devenir un art-thérapeute. Puisque la totalité de la formation en art-thérapie, en tout cas au sein de l'école, se fera avec ces compétences-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser les capacités techniques de la personne, lui donner d'autres fondements théoriques, psychologie, neuropsycho, physio, philosophie de l'art, etc., pour ensuite, effectivement, être un bon thérapeute.
Quelles sont les disciplines utilisées en art-thérapie ?
Alors, c'est un point important. Je vais compléter la question en donnant d'abord la définition de l'art, puisque l'art, c'est donc une expression humaine, est véritablement humaine, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'art. Et un truc absolument génial, c'est que s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'être humain. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, le principe artistique, c'est que donc l'art est une expression humaine orientée vers l'esthétique. L'esthétique, on la définira très rapidement comme étant la science du beau. C'est pas moi qui le dis, c'est Baumgarten au XVIIIe siècle. Cette définition est plutôt pas mal. Il y en a d'autres qui ont essayé de réfléchir dessus depuis. Mais voilà, donc ça veut dire que cette pratique artistique, elle aura pour objectif effectivement l'esthétique. L'esthétique, c'est quoi ? C'est essayer de ressentir un moment agréable qui va être très personnel, très subjectif. Peut-être que vous appréciez des musiques que je n'aime absolument pas. C'est pas pour ça que je vais dire qu'effectivement elles ne sont pas belles. Peut-être que vous les appréciez, vous les trouvez belles. Peut-être qu'il y a des tableaux que vous trouvez très beaux. Peut-être qu'il y a des photos que vous trouvez très belles et qui ne vont pas forcément faire l'unanimité effectivement pour toutes les personnes. Et donc ça, c'est un des points spécifiques de l'art, c'est qu'il entraîne de la subjectivité. Et il faut quand même savoir que ça n'a pas été le cas tout le temps. N'oublions pas quand même que à l'Antiquité, etc., ce qui était important, c'était l'objectivité. Il y avait des canons de beauté. Toute la statuaire grecque, elle est faite de la même manière. Et celui qui essayait de déroger un peu, de faire un muscle éventuellement un petit peu plus gros à Achille, il finissait au lion, hein. Donc il fallait quand même se méfier. Et à partir de la Renaissance, à partir de Michel-Ange, quand il peint le plafond de la chapelle Sixtine et qu'il descend de son échafaudage et qu'il se dit ouais, finalement ce que je viens de faire, c'est plutôt pas mal, on voit apparaître effectivement cette notion de subjectivité. Et à partir de là, toutes les techniques artistiques vont pouvoir être utilisées, c'est-à-dire que tout ce qui va être une expression humaine, avec une technique particulière donnée, spécifique à une activité artistique, dans un objectif esthétique, va pouvoir être utilisé en art-thérapie. Donc, de la musique, des arts plastiques, des arts de la scène, du cirque, de la photographie, tous les arts visuels, etc., etc. L'essentiel, c'est qu'il y ait effectivement une activité reconnue comme étant à visée esthétique.
Peut-on considérer l'art-thérapie comme un soin de support ?
Dans les textes, oui. Officiellement, oui. Elle a été inscrite, entre autres, par une équipe de Tours, du CHU de Tours, en la personne d'ailleurs du professeur Colomba, qui est hématologiste, et qui a effectivement en son sein, dans son service, deux art-thérapeutes qui sont diplômés de la faculté de médecine de Tours, donc en lien avec la Fratapem, et qui effectivement a inscrit les soins de support comme étant l'art-thérapie, pardon, comme étant un soin de support parmi les autres. Donc il est reconnu comme un soin de support par la Haute Autorité de Santé, par l'Agence Régionale de Santé également, alors spécifiquement en cancérologie, et pas forcément pour l'instant auprès d'autres disciplines ou pathologies chroniques.
Est-ce que votre action est reconnue par l'institution médicale et la cancérologie en particulier ?
Alors l'action est reconnue, il faut savoir que l'État a légiféré, qu'il a reconnu l'école d'art-thérapie de Tours depuis 2012 comme étant une spécialité paramédicale avec une certification professionnelle de niveau 2. Avant cela, l'école et la discipline d'art-thérapie moderne, parce que j'insiste, on en reparlera sans doute un petit peu plus tard, dans une autre éventuellement intervention, l'art-thérapie moderne, donc telle que je l'ai définie tout à l'heure, l'exploitation du potentiel artistique dans une visée thérapeutique et humanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse de l'œuvre, on est véritablement sur la valorisation du potentiel du patient et de ses parties saines, et officiellement reconnue effectivement par l'État et par le corps scientifique par l'intermédiaire des facultés de médecine de Tours, de Lille et de Grenoble.
La prise en charge en art-thérapie se fait-elle de manière individuelle ou en groupe ?
Alors tout va dépendre de l'objectif thérapeutique qui est fixé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des prises en charge individuelles en fonction d'un certain type de pathologie, en fonction d'un objectif particulier à atteindre. Et parfois, l'institution soit va imposer effectivement, pour des questions d'organisation, des prises en charge collectives, soit l'accompagnement peut se faire effectivement de manière collective par l'intermédiaire d'une stratégie thérapeutique tout à fait définie qui va nécessiter effectivement cette prise en charge collective. Quoi qu'il en soit, au sein de l'école, la Fratapem travaille sur la formation des deux possibilités, à la fois individuelle et à la fois collective.
Dans le cadre d'une prise en charge en groupe, comment se déroule un atelier ?
Il est assez difficile éventuellement de répondre à cette question très précisément, ça va dépendre vraiment de l'objectif. Il faut bien entendu envisager à chaque fois, dans un premier temps, des rencontres individuelles qui ont été établies entre l'art-thérapeute et le patient pour évaluer ses capacités, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un état de base, c'est-à-dire de voir où en est le patient, sur quoi on va pouvoir travailler, quelles sont ses difficultés, ce qu'on appelle des sites d'action, c'est-à-dire des endroits où effectivement le patient présente quelques difficultés, qu'elles soient de l'ordre corporel, psychologique, social. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe étant de travailler sur les parties saines, on va tenir compte bien entendu de ces difficultés-là, sanitaires, psychologiques ou sociales, mais on va surtout valoriser ce qui marche. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, la rencontre aura lieu de manière individuelle, et puis ensuite, on fera en sorte d'intégrer le patient à un groupe pour pouvoir effectivement utiliser le groupe comme étant également catalyseur thérapeutique et puis permettre une amélioration, par exemple, sur le plan social.
Comment peut-on pratiquer une activité artistique quand on est au fond du trou et qu'on n'a plus goût à rien ?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Le principe, vous touchez effectivement les fondements même de l'art-thérapie moderne. Telle qu'elle est définie par la Fratapem, c'est que nous allons faire la différence en ce qui sera de l'ordre de l'objectif sanitaire et de l'objectif existentiel. Je m'explique. L'objectif sanitaire va effectivement travailler sur des objectifs thérapeutiques tels qu'ils auront été définis par l'équipe, l'équipe pluridisciplinaire, puisque l'art-thérapie est indiquée, elle est prescrite par l'intermédiaire de l'équipe, paramédicale, médicale. Et le principe, justement, de l'art-thérapeute va être de travailler sur ce qu'on va appeler les objectifs existentiels. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous en donner trois, par exemple, qui vont sans doute vous permettre d'appréhender ça différemment. On va parler de la notion d'espoir, on va parler de fierté, et puis on va parler de sympathie. La sympathie, c'est cette capacité à pouvoir vibrer avec les autres, à ressentir dans un premier temps. Donc même lorsqu'on sera au fond du trou, le principe de l'art thérapeute, ça va être dans un premier temps de faire en sorte que le patient ressente, tout simplement corporellement, les poils qui se dressent, par exemple. Là, on est dans du ressenti parce que la musique est belle, parce que la peinture est belle, parce que l'art thérapeute qui est devant lui est en train de jouer de la musique, parce qu'il est en train de danser, parce que l'art thérapeute est en train de faire un dessin en face de lui, une belle photo. Et donc, on va travailler justement sur ce ressenti esthétique. Et c'est en travaillant sur ces parties saines-là, parce que ça marche, même si le patient est au fond du trou, ses capacités sensorielles continuent de fonctionner, donc on va aller le chercher par cet intermédiaire-là.
Des séances d'art-thérapie peuvent-elles agir de façon positive sur les effets secondaires des traitements, douleurs, fatigue ou nausées ?
Effectivement, on va bien souvent essayer de travailler sur donc, les effets secondaires, et ça va bien souvent être une des indications justement de l'art-thérapie en cancérologie, c'est-à-dire essayer d'avoir un impact, par exemple, sur la qualité du sommeil, essayer de limiter, d'avoir un impact antalgique, d'avoir un impact anxiolytique. Et donc, il y a un certain nombre d'art-thérapeutes qui travaillent spécifiquement auprès de ces publics et qui ont une action et des objectifs qui vont effectivement dans ce sens. Donc, ça fonctionne, ça marche. Alors attention, comme je le disais, l'art-thérapie n'est pas là pour guérir, elle est là pour donner envie de guérir. N'empêche que lorsqu'on revient dans ces fameux objectifs existentiels, c'est-à-dire que d'un seul coup, le patient a l'envie de se projeter, a envie de faire des choses, a envie de travailler entre deux séances, il y a de l'espoir qui va naître. Et pendant qu'il va être en train de pratiquer, on va essayer d'ouvrir une fenêtre artistique pendant un moment. Alors attention, elle est canalisée, elle est bornée avec une rigueur scientifique, une évaluation précise. Mais cette fenêtre scientifique va permettre effectivement au patient d'un seul coup de voir pourquoi pas ses douleurs diminuer, de voir son sommeil s'améliorer parce qu'il va être dans une autre dynamique, dans une autre démarche. Et donc il va pouvoir se projeter dans un projet et donc il aura toujours mal. N'empêche qu'il va avoir mal différemment. Et puis on le sait maintenant, puisque une des disciplines avec lesquelles l'art-thérapie travaille de plus en plus, c'est la neuropsychologie et tout ce qui va être de l'ordre des neurosciences. Et on sait que l'activité artistique va avoir un impact au niveau, entre autres, de l'hypothalamus. Et cet hypothalamus va permettre des sécrétions particulières d'hormones et, entre autres, d'endorphines qui vont permettre, effectivement, de voir limiter la douleur et pendant l'activité artistique.
Selon vous, n'est-ce pas un peu compliqué d'inciter des gens malades à se lancer dans une activité artistique quand on n'a jamais rien fait de tel dans sa vie auparavant ?
Alors c'est toujours surprenant, effectivement, lorsqu'un patient est hospitalisé en cancérologie pour une chimiothérapie, par exemple, et alors qu'il demande éventuellement à voir quelqu'un pour limiter sa douleur et qu'on lui envoie l'art thérapeute. Il faut tout à fait imaginer que ça peut être parfois assez... ça peut être vécu de manière assez curieuse. Bon, alors c'est pour ça que l'art-thérapeute doit avoir effectivement sa légitimité à l'intérieur de l'équipe pluridisciplinaire. Mais ce qui est important, c'est que voilà, il faut travailler sur justement les parties saines du patient. Et la première chose avant de lui donner un pinceau et de le mettre au boulot, ça va sans doute effectivement d'être dans un premier temps dans la relation, de travailler sur cette rencontre et d'expliquer le pourquoi de l'art-thérapie à ce moment-là et surtout des effets thérapeutiques. C'est pour ça. Et la Fratapem insiste énormément là-dessus, c'est pour ça qu'il faut justement des garanties scientifiques, du sérieux et un protocole thérapeutique qui soit véritablement établi pour pouvoir effectivement rentrer dans cette démarche thérapeutique.
L'art-thérapie s'adresse-t-elle à tous les patients ?
Alors l'art-thérapie, si on reprend la définition de l'art, donc activité humaine d'expression spécifique utilisant une technique particulière dans un objectif esthétique, les pouvoirs et les effets de l'art, on les connaît. Certaines toiles de maître nous font vibrer, d'autres ont tendance à nous faire fermer les yeux, certaines musiques nous font fermer les oreilles, nous allons voir certaines expos de photos, nous sommes attirés éventuellement par une statue pour aller toucher, nous allons être attirés par une peinture en particulier, nous allons mettre la musique plus fort, nous allons chanter plus fort, etc., etc. Donc on les connaît, ces pouvoirs et ces effets de l'art. Ils permettent une valorisation de l'expression, L'expression, c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, qui va se traduire bien souvent sous forme d'émotion. Et puis, si cette expression est dirigée vers autrui, puisque l'homme, avant toute chose, est un être social, puisque la définition de la bonne santé le dit bien, la bonne santé, c'est un état de complet bien-être mental, physique et social. Et le social est important, même si on a tendance à l'oublier ces temps-ci, mais c'est comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'être humain, donc, va pouvoir s'exprimer, et en s'exprimant et en dirigeant cette expression vers autrui, il va communiquer avec l'autre. Et si jamais l'autre communique en même temps que lui, ça s'appelle la relation. Donc, les pouvoirs de l'art, c'est l'expression, la communication et la relation. Et ainsi, l'art-thérapie va s'adresser essentiellement, vu qu'elle utilise les potentiels artistiques, à des personnes qui présentent des troubles de l'expression, de la communication et de la relation. Donc ça va de l'enfant autiste à la personne souffrant d'une névrose phobique, en passant par la personne âgée démente, la personne âgée exclue, la personne sous main de justice, qui est en prison, qui est exclue également, des personnes en situation de handicap mental, des personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui pendant un moment vont être effectivement mises à la marge un petit peu de la société et vont présenter des troubles de la relation. Voilà. Donc le champ d'application, c'est vraiment troubles de l'expression, de la communication, de la relation.
Y a-t-il des disciplines artistiques mieux adaptées que d'autres pendant le traitement du cancer ?
Alors ça peut arriver, effectivement, puisque en fonction des conditions dans lesquelles vous allez rencontrer votre patient, il y a certaines disciplines qui risquent d'être effectivement un petit peu plus compliquées. Je vous donne un exemple très pratico-pratique. Vous travaillez auprès de personnes qui souffrent de leucémie, par exemple. Vous êtes dans un espace stérile. Il vous sera fortement compliqué et totalement interdit même de faire rentrer des pinceaux, des crayons de couleur, des feuilles de papier, de la terre même, allons jusqu'au bout. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle une activité synchronique, c'est-à-dire où l'action et la production sont simultanées, sera sans doute beaucoup plus adapté. Donc par exemple, la musique, le chant, la danse, le théâtre peut être sans doute mieux adapté à ce moment-là. Et puis après, ça va dépendre des goûts du patient, puisque c'est surtout ça qui est important, on va valoriser ce qui fonctionne chez lui. Donc si le patient vous dit qu'il préfère faire de la peinture, on fera de la peinture. Ça va de soi.
Fabrice Chardon, pensez-vous que la pratique d'une activité artistique ait un impact sur l'efficacité des traitements ?
Oui. Comme on l'a dit, l'art-thérapie est essentiellement là pour donner envie de guérir. Et donc cette capacité à avoir une idée de ce qui peut se passer après, c'est-à-dire d'un seul coup, cette sensation de se dire « j'existe encore », puisque ça c'est une des grosses problématiques de la cancérologie, c'est que bien souvent on a des patients qui continuent à vivre mais qui arrêtent d'exister. Je ne vais pas jouer sur les mots, mais ils sont toujours dans une vie biologique. La vie physiologique est toujours là, par contre la vie psychique a franchement diminué. Et la capacité, c'est ce que j'appelle l'existence, et cette capacité d'exister malheureusement a tendance à diminuer. Ce qui fait que le patient va être effectivement dans des situations compliquées. Et donc on va essayer de faire en sorte que l'activité artistique puisse lui redonner effectivement de l'espoir, de la fierté, et donc il acceptera même mieux la prise en charge du traitement. On le voit bien en psychiatrie hein, par exemple. Des patients schizophrènes qui sont suivis en art-thérapie vont accepter beaucoup mieux le traitement neuroleptique qui leur sera donné. Et on voit même d'énormes équipes paramédicales qui, pour la schizophrénie en l'occurrence, lorsque le patient a besoin de son injection retard de manière mensuelle, on va faire en sorte que ce patient revienne sur l'institution pour suivre son atelier d'art-thérapie. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'art-thérapie pour attirer le patient. D'accord, qui vient là dans un objectif d'amélioration effectivement de sa qualité de vie, et à l'issue de son atelier d'art-thérapie, il pourra ensuite effectivement aller chercher son traitement. Donc il y a un impact.
Que pensez-vous des ateliers d'écriture pour les personnes malades ?
Alors l'atelier d'écriture est une particularité effectivement qu'on va rencontrer régulièrement dans des services par exemple de cancérologie. Là je vais m'arrêter quelques instants sur deux définitions. On a parlé et on parle d'art-thérapie moderne, telle qu'elle est définie par l'école de Tours et par la Fratapem, qui a donc pour objectif de donner envie de guérir au patient, pas forcément de le guérir, mais qui a surtout pour objectif de travailler sur les parties saines du patient, sans aucune analyse du contenu verbal, ni même de la production artistique. Il n'y aura pas d'interprétation. On ne va pas essayer de comprendre pourquoi le soleil est en haut à gauche ou pourquoi la personne a mis en place un poème très particulier et essayer de comprendre ce qui se passe entre les lignes du poème. Ça, c'est de l'ordre de la psychothérapie à médiation artistique, ou plus généralement appelée art-thérapie traditionnelle, qui, elle, va analyser le contenu verbal et qui va analyser la production. Donc l'atelier d'écriture a cette particularité, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'interprétation du texte, mais qu'il faut rester, si on est sur une art-thérapie moderne, il faut rester effectivement sur un atelier qui a pour objectif la beauté globale du texte, la manière dont il est écrit, en travaillant sur de la technique, c'est-à-dire est-ce le nombre de pieds, est-ce qu'on travaille sur de l'alexandrin, est-ce qu'on travaille sur des rimes, etc., etc. Mais peu importe ce qu'il y a à l'intérieur des mots, ce qui va être le plus important, c'est la manière dont le texte va nous toucher, mais pas forcément comment on va l'interpréter. Donc l'atelier d'écriture a ce double tranchant, et il faut être méfiant, il faut être attentif à comment va être défini cet atelier d'écriture. Est-ce qu'on est sur un atelier d'art-thérapie moderne ou est-ce qu'on est sur un atelier d'art-thérapie traditionnelle ?
Que peut apporter la pratique de la musique aux malades ?
Alors la pratique de la musique va permettre chez des patients chroniques à la fois un ressenti corporel qui va être positif, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une écoute, on va travailler sur la contemplation, on va faire en sorte que le patient se sente bien à l'écoute. Puis ça va lui permettre éventuellement de structurer un petit peu son corps et d'avoir une poussée corporelle, c'est-à-dire qu'il va avoir envie, pourquoi pas, lui, d'aller tourner le son. Il va faire en sorte, lui, de choisir les musiques qu'il apprécie. Ça va lui permettre aussi de s'engager dans une activité du chant, par exemple, où on va travailler sur la respiration. Ça va lui permettre de s'engager dans une pratique instrumentale. Alors, sans non plus inviter les Rolling Stones dans la chambre, loin de moi l'idée. S'ils veulent venir, ils seront les bienvenus. Mais le principe, c'est d'essayer de se dire, voilà, par l'intermédiaire de petits instruments, de petites percussions, de faire en sorte que le patient s'engage dans l'activité, qu'il prenne du plaisir à nouveau à s'engager, à la fois dans l'écoute de ce qu'il est en train de faire, et donc qu'il rentre dans une espèce de boucle de renforcement, c'est-à-dire qu'il ait envie, à nouveau, par ce qu'il est en train de faire, de ressentir un nouveau plaisir, plaisir esthétique, et donc de s'engager dans cette activité. Et donc ça apporte effectivement des effets qui vont être thérapeutiques d'un point de vue anxiolytique, d'un point de vue antalgique. Ça va améliorer la qualité du sommeil, ça va lui permettre aussi de montrer à ses proches qu'il est capable encore de faire des choses, et que ce n'est pas parce qu'il est atteint effectivement d'un cancer qu'il est mis à mal sur son activité même d'être humain.
Que peut apporter la pratique des arts plastiques aux malades ?
Alors là, encore une fois, nous allons être par l'intermédiaire des arts plastiques, à la différence de la musique, sur un art qui va être diachronique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une trace. Et cette production va permettre d'y revenir dessus. Et elle va permettre, par exemple, au patient de rentrer dans un projet où il va pouvoir améliorer progressivement sa production. Il va y avoir aussi quelque chose de tout bête. On a tendance à l'oublier, mais l'art thérapeute y pense régulièrement, c'est que la peinture, ça salit. C'est-à-dire qu'on s'en met plein les doigts. Et puis les crayons de couleur, il faut les tailler. Et puis les feutres, il faut enlever le bouchon. Voilà, des choses toutes bêtes, mais qui vont faire que ça va entraîner de la motricité fine. Ça veut dire qu'à un moment, on va sentir la peinture sur ses doigts. Alors que jusqu'à présent, on sentait plutôt les effets secondaires d'une chimiothérapie, par exemple. Et donc là, d'un seul coup, on ressent la peinture au bout de ses doigts, on ressent le pinceau au bout de ses doigts, on sent la craie grasse qui est en train, effectivement, de fondre un petit peu sur les doigts. Voilà, tous ces éléments-là vont faire que le patient va également ressentir un plaisir particulier, des sensations particulières au niveau de son corps qu'il n'avait pas forcément ou plus forcément l'habitude de ressentir. Donc ça lui permet aussi de se réapproprier son corps, de le structurer à nouveau différemment et de pouvoir repartir dans un projet... même sans non plus en faire un artiste, parce que ça c'est important. Il n'y a pas d'objectif de production. Le principe c'est le parcours et l'intention de produire.
Les activités artisanales, que ce soit le tissage, la couture ou la poterie par exemple, entrent-elles dans le cadre de l'art-thérapie ?
Elles peuvent y rentrer effectivement. Vous avez bien fait de faire la différence entre l'artisanat et l'art. Puisque à la différence de l'art, c'est que toutes les techniques artisanales ont pour objectif d'être utiles. C'est-à-dire que la poterie, l'essentiel, c'est pas de faire un joli pot, c'est de faire un pot. un artisan, il fait des choses utiles. Alors après, il va effectivement y mettre sa touche, son style, sa patte. Mais pour de nombreux patients, ça va être important de passer justement par cette utilité. Pour de nombreux patients... de faire quelque chose de figuratif, c'est beaucoup mieux que de faire quelque chose de totalement abstrait. culturellement parlant, en fonction des codes sociaux, etc. Pour beaucoup de patients, ça sera mieux éventuellement de faire un pot, de faire de la couture, de faire un petit panier en osier, qu'éventuellement dessiner trois bouts de trait sur une feuille blanche en expliquant que c'est la mer au coucher de soleil. Donc voilà, ils seront plus sensibles effectivement au fait de faire des choses qui vont être utiles.
Selon vous, est-ce qu'il ne faut pas privilégier les disciplines comme la musique, le chant, la danse, qui impliquent directement le corps?
Alors c'est une des spécificités justement de l'école de Tours et de la Fratapem, c'est que la particularité de l'art, c'est qu'elle nécessite le corps. Toute activité artistique va nécessiter le corps. Et peu importe d'ailleurs l'activité, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire oui, mais la danse nécessite plus le corps que la calligraphie, je ne suis pas sûr. Va le solliciter pardon, tout autant, de manière différente, mais le corps de toute façon va être le vecteur privilégié de l'activité artistique. Et c'est une des particularités de l'art-thérapie moderne, c'est qu'elle ne va pas simplement travailler sur le psychisme, elle va travailler sur le physique. Et ça va être capital. Pour de nombreux patients, l'activité thérapeutique passe systématiquement par le psychisme. Non. Le principe de l'art-thérapie, c'est de mettre éventuellement ça de côté pendant un temps et de montrer que ce corps malade est quand même capable de faire des choses. Et donc, travailler sur un ressenti corporel, sur une structure corporelle, sur une poussée corporelle. Si je fais un exemple concret, c'est quand vous allez à la piscine, c'est cette capacité à un moment, vous êtes en train de tourner autour de la piscine, bah vous imaginez que l'art-thérapie, ça va être cette capacité à aller sur le plongeoir et de faire la poussée avec les pieds qui vous permettent de rentrer dans l'eau. Voilà, bah le principe de l'art-thérapie, c'est ça, c'est-à-dire me montrer que ce corps est toujours capable de plonger et de se mettre en activité pour faire quelque chose qui est plaisant et qui permette un ressenti positif. Donc le corps est mobilisé, quoi qu'il en soit, dans toutes les activités artistiques.
Que pensez-vous des thérapies par le chant pour les personnes malades?
Alors les thérapies par le chant peuvent être appropriées à un certain nombre de pathologies. Là encore, tout dépend ce qu'on va y mettre derrière, c'est-à-dire que si on reste sur une activité d'art-thérapie moderne telle qu'elle est définie par la Fratapem, l'activité chant permettra effectivement de travailler sur le souffle, va permettre de travailler sur des capacités respiratoires, va permettre aux patients d'appréhender un répertoire peut-être qu'il ne connaît pas, de découvrir d'autres sensations au niveau corporel, mais sans interprétation du contenu, encore une fois. Si on est sur de l'art-thérapie traditionnelle, peut-être qu'on interprétera le choix du chant qui a été fait, et éventuellement même on interprétera les paroles qui ont été choisies. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas forcément le cas en art-thérapie moderne, puisque le principe, ça sera effectivement que le patient s'engage dans l'activité, et donc le chant est tout à fait adapté. Et il peut être tout à fait bénéfique pour un certain nombre de patients, même sous oxygène, qui d'un seul coup se rendent compte qu'ils sont capables d'avoir toujours une émission sonore, vocale, dans une visée esthétique, donc ça peut fonctionner, effectivement.
Nous avons une question de Daniel qui nous explique qu'il comprend qu'une activité artistique diminue le mal-être d'une personne en agissant sur son esprit, mais comment peut-elle agir sur la maladie qui, elle, touche son corps?
Donc, la pratique artistique étant un moyen d'expression privilégié, il est évident que le corps va être le vecteur principal de l'activité artistique. Donc tout passera d'abord par le corps et ensuite par le psychique. Ça, c'est important. Alors ce n'est pas les art-thérapeutes qui l'ont dit, hein, il y a eu toute une cohorte de scientifiques, en passant par les philosophes, les neurologues, les psychologues, les médecins, les physiologistes. C'est d'abord le corps, puis c'est ensuite l'esprit. Donc, tant que ce corps, effectivement, n'aura pas ressenti des sensations positives, une orientation esthétique, la volonté de s'engager dans l'activité, il sera effectivement difficile au psychisme de pouvoir s'améliorer. Donc, le principe même de l'art-thérapie, c'est de commencer à travailler sur le corps, sur un ressenti, sur une structure corporelle, sur cette volonté de poussée corporelle, c'est-à-dire engager le patient dans l'activité. Et lorsqu'il est engagé, il va effectivement améliorer son psychisme, puisqu'on va travailler sur cette capacité de projection. Je vous donne un exemple concret, c'est ce patient qui va travailler une activité plastique pour laisser une trace, pour pouvoir travailler avec ses enfants, par exemple, entre les séances d'art-thérapie, pour pouvoir apprendre des chants avec sa famille, et pour envisager l'après-chimio, par exemple, en se disant, bah voilà, je termine toute ma chimiothérapie à Noël. Et ben allez, pour le nouvel an, chiche, je chante 3 chants avec mes amis, et donc je les aurai appris en art-thérapie. Donc c'est d'abord le corps qui va être engagé, et après suivra la psyché.
Comment les séances d'art-thérapie sont-elles prises en charge par l'assurance maladie ?
Alors, d'un point de vue très pratico-pratique, elles ne le sont pas, puisque l'art-thérapie est reconnue mais pas homologuée. Alors, je ne vais pas jouer sur les mots, mais c'est un petit peu compliqué. L'art-thérapie, lorsque l'art-thérapeute fait partie de l'équipe pluridisciplinaire au sein d'une institution et que l'art-thérapie est reconnue par l'institution, les patients qui sont suivis en art-thérapie n'ont pas à débourser le moindre sou pour pouvoir avoir accès à l'art-thérapie. C'est-à-dire que ça fait partie de la palette de soins qui est proposée dans l'institution. Et voilà. Par contre, pour les patients qui souhaiteraient se rendre sur une intervention plutôt libérale, là, c'est effectivement à leur charge et il n'y a pas possibilité de remboursement par l'assurance maladie. Certaines mutuelles commencent éventuellement à rembourser une ou deux séances d'art-thérapie par an, mais en tout cas, l'assurance maladie ne rembourse pas ce type de soins pour l'instant.
Dans un cadre thérapeutique, une activité artistique doit-elle être pratiquée uniquement entre personnes malades ?
Ça, c'est une question importante et pertinente. Comme nous l'avons déjà dit, le principe étant de travailler sur les parties saines du patient en art-thérapie, il arrive régulièrement que l'art-thérapeute travaille par exemple avec les soignants ou avec les proches. Avec les soignants, cela permet surtout aux patients et aux soignants d'améliorer leurs relations et d'un seul coup d'avoir une vision différente des deux parties. C'est-à-dire que le soignant, se rendant compte que son patient est capable d'avoir un coup de crayon absolument magique, de s'engager dans une activité artistique propre, d'avoir des sensations positives, et de sourire, par exemple, alors que ça faisait 15 jours qu'il était hospitalisé et qu'il l'avait encore jamais vu sourire. Et inversement, un patient va voir un soignant qui est capable de chanter, qui est capable de ressentir un certain nombre d'émotions particulières, et donc ça peut également humaniser un petit peu plus le soin, et le patient se rend compte à ce moment-là que la personne soignante qui s'occupe d'elle est un être humain comme les autres. Et puis, on peut utiliser l'art-thérapie également avec les proches. C'est-à-dire qu'on va travailler avec la famille, on va travailler avec les enfants, les parents. Donc, on va sortir aussi, on va créer une rupture dans le processus pathologique. On ne va pas rester dans ce clivage. On va créer vraiment un clivage. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas que les patients d'un côté et les soignants de l'autre. On va essayer vraiment de créer une rupture pour faire en sorte que... ils puissent se mélanger et que les familles puissent intégrer également la prise en charge. Mais là, encore une fois, ça dépendra des objectifs thérapeutiques qui ont été fixés et de la pertinence de la présence ou non de proches ou de soignants dans l'activité art-thérapeutique.
Après le cancer, une activité artistique peut-elle avoir un impact pour prévenir une récidive ?
Alors, il y a quelques études qui sont en cours là-dessus. Je vous dirais bien oui. Elle va permettre, à défaut de prévenir véritablement la récidive cancéreuse, d'avoir au moins la volonté de continuer à exister avec une bonne qualité de vie. Puisque le principe, ça va être, grâce à l'art-thérapie par exemple, de continuer à travailler sur la notion de projet, d'être fier de ce qu'on est, malgré le fait qu'il y ait éventuellement quelques métastases qui continuent à tourner, mais même si elles sont bien surveillées, ça va. L'art-thérapie va quand même permettre effectivement de vivre avec cette métastase-là le mieux possible, c'est-à-dire de ressentir quand même une qualité de vie positive. Le principe, ça va être vraiment de travailler sur la notion de projet. Donc, de là à ce que ça empêche véritablement la récidive, je vous dirais que non, parce que d'un point de vue neurophysiologique, je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant. On verra ce que diront les études. N'empêche qu'elles permettent quand même aux patients de s'engager dans un projet et de ne pas s'arrêter avec cette pénalité qu'est la maladie et cette blessure de vie, sans créer du handicap social, c'est-à-dire qu'il soit capable effectivement d'aller vers l'autre, et l'activité artistique peut permettre ça effectivement, dans un cadre art-thérapeutique.
Existe-t-il des études cliniques sur les bénéfices de l'art-thérapie pour les malades du cancer ?
Oui, la pathologie cancéreuse, alors comme nous l'avions dit déjà tout à l'heure, l'art-thérapie étant considérée comme un soin de support en cancérologie, très rapidement un certain nombre d'études ont été mises en place, à la fois par des équipes de soignants, des équipes de recherche et puis des art-thérapeutes. Alors, il y a des choses qui ont été mises en place, par exemple au CHU de Tours, je pense au CHU de Lyon, je pense au CHU de Grenoble, où un certain nombre d'équipes médicales ont mis en place des études avec, par exemple, la mesure de l'impact de l'art-thérapie, et peu importe la dominante, qu'elle soit musicale, art plastique, art corporel, sur la fatigabilité des patients, sur l'anxiété, sur l'amélioration de la qualité du sommeil, sur la douleur, sur la relation également entre les patients et les soignants, les patients et les proches. Donc il existe effectivement un certain nombre d'études qui sont publiées d'ailleurs et qui mettent en avant l'impact de l'art-thérapie sur effectivement ces spécificités de la cancérologie.
Plus globalement, être créatif, est-ce que c'est bon pour la santé?
Oui, vous me laissez un peu de temps pour vous répondre à tout ça parce que là le temps va être effectivement un petit peu long. Être créatif, c'est bon pour la santé. Je vais jouer sur les mots. C'est peut-être pas forcément bon pour la santé, mais c'est bon pour le bien-être. Puisqu'on peut être dans une situation de bien-être sans forcément être en bonne santé. C'est-à-dire qu'il nous arrive tous des fois d'avoir un rhume, d'être fatigué. C'est pas pour ça qu'éventuellement on n'est pas dans le bien-être. Et inversement, il nous arrive d'être en très bonne santé et de pas forcément être dans une activité, enfin d'être dans une sensation de bien-être. On peut être éventuellement même pas très bien. Donc, être créatif, effectivement, ça permet de maintenir le bien-être et d'être dans une qualité de vie qui soit bonne, pour la simple et bonne raison qu'on va travailler là sur la saveur existentielle. C'est-à-dire que en étant créatif, on va valoriser son imagination, on va favoriser son expression, on va faire appel à sa subjectivité, on va aller chercher dans sa culture, on va développer une technique. Donc, ça veut dire qu'on va s'engager corporellement et psychiquement, ça veut dire qu'on va développer son style, même si on va peindre en bord de Loire le dimanche matin et qu'on fait de la mimésis pure, c'est-à-dire qu'on reproduit des tableaux de génération en génération, mais n'empêche qu'il y a ce style-là qui n'appartient qu'à nous et que chaque tableau est unique. Et cette capacité, même si vous chantez sous votre douche tous les matins, de dire c'est vous qui chantez, donc vous pouvez être fier de ce que vous chantez, même si effectivement les harmonies sont pas forcément toujours là, mais n'empêche que effectivement, ça maintient une qualité de vie qui est bonne.
Fabrice Chardon, pouvez-vous nous donner quelques titres d'ouvrages pour mieux comprendre les bienfaits de l'art-thérapie pour les malades?
Alors, il y a des ouvrages de référence. Je pense entre autres au Tout savoir sur l'art-thérapie, qui a été écrit par Richard Forestier, qui avait été un des cofondateurs de la Fratapem, qui est maintenant le responsable du CESAM, le Centre d'études supérieures en arts et médecine, en lien avec la Fratapem. Nous sommes à la 7e édition, je crois, donc c'est un ouvrage de référence. Dans la même veine, il y a le Tout savoir sur la musicothérapie, qui lui est beaucoup plus spécifique sur la musicothérapie. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui existent, je pense à un ouvrage qui a été fait pour la lombalgie chronique. Voilà, art-thérapie et mal au dos. L'art-thérapie peut-elle soigner le mal au dos? Et puis vous avez des ouvrages tels que l'impact, l'évaluation de l'impact de l'art-thérapie auprès de personnes démentes séniles, par exemple, des personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer, entre autres. Voilà, donc on est souvent sur des collectifs. Je pense aussi à des ouvrages comme l'évaluation en art-thérapie ou profession d'art-thérapeute. Voilà, qui sont des ouvrages que vous trouverez. Le mieux, c'est d'aller visiter le site de la Fratapem et vous trouverez ces ouvrages dans la bibliographie. Vous aurez la totalité de ces ouvrages-là. Il y a d'autres ouvrages aussi. Sachez quand même qu'il y a en gros un bouquin qui sort chaque semaine sur l'art-thérapie. Ah, c'est comme tout, hein. Il y a du bon et du moins bon. Voilà. Méfiez-vous des coloriages et des choses comme ça qui, soi-disant, vous soigneraient le mal au dos. Il faut que ce soit accompagné par un professionnel. Donc voilà, il y a de tout.
Comment est-ce que vous voyez le développement de votre discipline dans les années à venir?
Alors, le développement, il va se faire, à mon avis, de manière scientifique et rigoureuse de plus en plus. Je suis optimiste. En tant qu'art-thérapeute, j'ai l'habitude de dire qu'on va travailler sur ce qui marche et les parties saines. Initialement, la Fratapem était en lien avec les facultés de médecine de Tours, de Lille, de Grenoble. Donc avec cette reconnaissance scientifique du corps médical, la reconnaissance par l'État apporte une caution supplémentaire. La formation maintenant en art-thérapie a grandi, elle se développe, Il faut imaginer donc que la certification en art thérapie, c'est presque 2 ans d'études, qu'il y a des stages, que vous sortez avec un niveau 2, c'est-à-dire bac plus 4, et qu'à l'issue de ça, vous pouvez intégrer maintenant un diplôme universitaire d'art thérapie des 3 universités dont je vous ai parlé ultérieurement. Ce qui fait que la formation est en train de se développer, on fait vraiment la différence entre psychothérapie à médiation artistique et art thérapie moderne. La Fratapem défend ça, le CESAM également. Donc je pense que l'art thérapie a de beaux jours devant elle. Il va falloir quand même la développer, il va falloir renforcer le cadre scientifique. Et puis, on le voit bien, hein, de toute façon, les art thérapeutes qui sortent maintenant de la formation ont un bagage qui est beaucoup plus important que ceux qui sortaient il y a 10 ou 15 ans. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se développer. Et puis, c'est ce qui fait un peu la spécificité de la France, c'est qu'on restera encore sur des courants un petit peu différents, mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse. Et puis, on va pouvoir développer ça le mieux possible. Peut-être qu'il y aura un DE dans 10 ans, mais on se reverra d'ici là, on verra, on en reparlera.
Enfin, dernière question, que diriez-vous à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer pour l'amener vers l'art-thérapie ?
Alors, je dirais à cette personne que l'art-thérapie peut lui permettre effectivement de rester dans un projet. Je vais vous donner une image. Vous êtes déjà peut-être allé en montagne, nous allons quitter la Touraine et nous allons quitter la Fratapem. Faisons preuve d'imagination, soyons créatifs, partons en montagne où vous imaginez que la personne qui vient d'être diagnostiquée, à qui on vient d'apprendre qu'elle a un cancer, vient de tomber dans une crevasse. Toute l'équipe médicale va faire en sorte qu'elle sorte de cette crevasse. Donc on va tout mettre en marche, tout mettre en œuvre pour que les différentes techniques médicales puissent lui permettre de sortir de la crevasse. La chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, etc. Une fois qu'elle sera sortie de la crevasse et qu'elle va continuer effectivement son traitement par l'intermédiaire de chimiothérapie plus ciblée, par l'intermédiaire d'hormonothérapie, etc. Le rôle de l'art-thérapie, il est là et il se situe vraiment là. C'est d'essayer de la raccompagner au refuge sans qu'elle retombe dans les crevasses. Et le problème, c'est que la nuit tombe, qu'elle n'a pas de crampons, qu'elle n'a pas de piolet, qu'elle n'a pas de corde et qu'elle n'a jamais marché sur un glacier. Donc le rôle de l'art-thérapie, il serait là, c'est-à-dire de lui permettre de continuer à être dans la vie, de continuer à être dans l'existence, de faire en sorte de rejoindre le refuge sans tomber dans les autres crevasses, en évitant effectivement tous les dangers de ce glacier, et de faire en sorte que l'accompagnement se passe le mieux possible, et même si effectivement il faudra peut-être 3, 4, 5 jours pour rejoindre le refuge, mais on prendra le temps nécessaire, mais ça lui permettra de garder de l'espoir, de garder de la sympathie, d'être fier de ce qu'elle fait, pour pouvoir garder une relation effectivement avec ses proches, de faire en sorte qu'elle reste un être humain à part entière, social, et que effectivement même si son corps va faire en sorte qu'elle ne se sente pas forcément le mieux possible, qu'elle garde effectivement cette qualité de vie, même si la santé pour l'instant lui fait défaut. Mais si elle recouvre la bonne santé, elle aura au moins maintenu une qualité de vie en ayant suivi une prise en charge en art-thérapie.
Merci beaucoup Fabrice Chardon d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci aussi à la Fratapem de nous avoir accueillis pour cet enregistrement, ainsi qu'à la Fondation Roche pour son soutien. Je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site www.bullesante.com et également y poser des questions à l'attention de nos prochains invités. N'hésitez pas à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt.